Merci beaucoup, Nanit. Et maintenant, pour débattre de tout cela, nous avons nos invités via Skype à Dakar, à Ouaba, chargé du bureau au Sénégal de l'OSIWA, l'Open Society for West Africa, et toujours sur Skype depuis Atlanta, ici aux États-Unis, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Et avec moi en studio, ici à Washington, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT Diplomatique. Merci à tous. Je démarre avec vous. Awa, en 2002 à Durban, l'Union africaine prenait le relais de l'OUA pour, disaient les chefs d'État, consolider les acquis de cette dernière. Alors les pères fondateurs seraient-ils fiers aujourd'hui de là où on en est en termes d'intégration africaine?
Alors je pense que pour le but premier de l'Union africaine qui est l'indépendance, ils peuvent être fiers parce qu'aujourd'hui la décolonisation du continent a été complétée et tous les pays sont indépendants. Maintenant, l'Union africaine se devait de consolider ses acquis-là. Il y a encore beaucoup à faire parce que si on regarde le but qui est l'intégration économique et politique du continent, nous sommes loin du compte. En matière d'infrastructure, nous n'avons pas des infrastructures adéquates, la libre circulation des biens et des personnes, il y a des problèmes. Mais aussi, on peut dire que le fait que le NEPAD, qui était le projet phare de l'Union africaine, et aujourd'hui, comme on le sait, est largement en deçà des promesses en matière de sa réalisation. Ce qu'on peut dire comme point positif, surtout en matière d'intégration économique, c'est la ZELECAF. Je pense que c'est la nouvelle donne. Maintenant, la ZELECAF est bonne sur le papier. Il faut la mettre en œuvre. Il faut résorber ce gap-là en matière d'échange économique sur le continent parce que nous échangeons moins entre nous en matière pour les pays africains. Et les pays africains échangent plus avec les pays qui sont de l'extérieur du continent. Donc, c'est un gap. Aussi, je pense que
d'accord, on pourra revenir sur tout cela. Alors Jean-Claude Zamba, promotion de la paix, solidarité entre les peuples d'Afrique, souveraineté, défense de l'intégrité des territoires. Alors tous ces termes se retrouvent dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Alors quand on voit un peu tous ces conflits sur le continent, on peut dire qu'on est loin de ces idéaux, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Quand on repart encore juste avant 1963, nous sommes retrouvés avec trois groupes. Le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, le groupe de Brazzaville. Et en fait, tous ces différents éléments étaient là. Le groupe de Casablanca, qui était dirigé par Feu Sékou Touré, était également considéré comme révolutionnaire. Il voulait carrément avoir une unité africaine de facto. Il voulait une intégration politique et économique. Et il voulait tout faire pour avancer sur éliminer le racisme, l'apartheid, le néocolonialisme, le retrait de la France de l'Algérie. Quand on regarde au niveau du groupe de Brazzaville et de Monrovia, qui étaient plus les modérés, c'était bon, on va plus essayer de faire venir les Occidentaux et leur capitalisme pour nous développer, mais en gardant nos indépendances au niveau de nos territoires, mais également politiques. Mais aujourd'hui, ce que nous trouvons, c'est que quelque part, le groupe de Casablanca était le groupe qui était le plus visionnaire. Aujourd'hui, on est encore en train de parler d'intégration sur le plan politique, d'intégration économique, et comme disait M. Kwame Nkrumah, il ne s'agit pas juste d'une indépendance politique, il faut également une indépendance économique. Et tant que l'indépendance du Ghana n'aura aucun sens, jusqu'à ce que l'indépendance à tous les niveaux de l'Afrique ne soit de facto accomplie.
Henri, tous ces idéaux sont nobles et a priori tout le monde y adhère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché si on est d'accord avec ceux qui pensent que l'Union africaine est loin d'atteindre ses objectifs?
Je crois que honnêtement, on attend beaucoup, beaucoup de l'Union africaine. On oublie qu'en fait, après 40 ans, il a fallu. Je pense en 2002, lorsque l'Union africaine arrive, on fait le bilan. Effectivement, la décolonisation est effective. On voit que tous les pays, effectivement, sont indépendants. Mais on est face à de nouveaux défis. On a vraiment changé l'époque. On a simplement voulu calquer, d'une certaine manière, les institutions de l'Union africaine à celles de l'Union européenne pour essayer de donner davantage de cohérence dans la vision qui était celle des signataires de l'acte constitutif, il faut bien le rappeler, mais ces différents défis ont fait paradoxalement que beaucoup de pays, plutôt que de se lancer dans cette dynamique d'intégration politique et économique, sont plutôt restés ostensiblement accrochés à leur puissance tutélaire, leurs anciennes puissances tutélaires, ce qui montre bien la difficulté aujourd'hui pour l'Afrique de parler d'une seule voix sur des sujets aussi importants que le réchauffement climatique, par exemple. Donc il y avait un vrai travail à faire, au-delà du fait, il faut bien le reconnaître, que pendant la même période, on a vu quand même émerger des organisations régionales ou sous-régionales, comme la CDAO, la SADC et d'autres, qui ont su tirer leur épingle du jeu en étant à la pointe d'une forme d'intégration économique. On le voit avec la zone CFA, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas tout à rejeter. Il y a beaucoup de travail à faire. L'Afrique, l'Union africaine a encore énormément de travail parce qu'il y a encore des disparités, des rivalités politiques. Et puis je serais tenté de vous dire que 55 pays, certes, mais 55 Afriques.
D'accord. 55 ou 54 selon qu'on accepte.
Effectivement.
Voilà.
Effectivement.
Alors, entre retour en force du coup d'État, débat sur les troisièmes mandats, quelle est un peu la place de la gouvernance et de la solidité des institutions dans toutes ces critiques contre, disons, l'Union africaine et même les institutions régionales comme la CDAO?
Je pense que c'est là où le bât blesse, parce que si on regarde l'Union africaine aujourd'hui, il y a beaucoup de textes, et des textes très avancés en matière de gouvernance politique. Si on regarde la charte africaine sur la gouvernance et la démocratie, c'est des textes qui sont solides. Au niveau aussi des sous-régions, au niveau de la CDAO, nous avons un très bon texte, mais encore une fois, la mise en œuvre de ces textes-là reste un problème. La plupart des pays sont... Il y a des avancées, comme le disait mon prédécesseur, par exemple. Aujourd'hui, quand même, quoi qu'on dise, on a moins de coudées. On a une majorité des pays où les régimes sont issus d'élections. Mais il y a des reculs notoires, notamment la montée de l'autocratisme. Il y a, comme vous l'avez si bien dit, la résurgence des coups d'État. Et ça, le substrat, c'est...
Certains diraient coup d'État militaire, mais également institutionnel, hein, ou constitutionnel.
Avec la non-limitation ou la non-respect des dispositions constitutionnelles, les manipulations des constitutions pour s'arroger des mandats supplémentaires. Et ça, le substrat, c'est le manque d'institutions fortes sur le continent, aussi bien dans les pays eux-mêmes, mais aussi au niveau régional. C'est-à-dire que l'Union africaine n'a pas un poids très fort sur les pays, pour leur imposer de respecter leur constitution d'abord, mais aussi les engagements qu'ils prennent au niveau régional comme au niveau international. Donc l'Union africaine, parce que l'Union africaine est faible, parce que l'Union africaine, la voix de l'Union africaine n'est pas prépondérante, elle ne peut pas imposer le respect de ces textes-là auxquels ces pays-là souscrivent. Parce que tous ces pays-là signent, adhèrent à ces textes-là, mais ils ne les respectent pas. Maintenant, je pense qu'il faut aussi regarder qu'il y a des pays qui essaient de tirer le continent vers le haut. Le Nigeria, où le respect de la limitation des mandats est maintenant acquis. Le Ghana, le Cap-Vert, le Niger même, qui récemment nous a aussi donné une bonne leçon de démocratie. Maintenant, il faut faire des choses.
D'accord. Jean-Claude, vous parliez tantôt des différents blocs disons, au début à la création de l'OIA. Aujourd'hui, l'Union africaine est-elle victime de ses propres contradictions, par exemple en reconnaissant la non-ingérence comme principe et en même temps en n'ayant pas de position commune sur des questions comme celle du Sahara occidental?
Ah oui, c'est...
Et même sur le statut d'Israël récemment.
Effectivement, et je pense que c'est un peu là l'un des problèmes lorsque vous essayez de mettre tout le monde ensemble et vous avez des intérêts qui sont quelque part divergents et dans certains de ces pays différemment, comme l'a dit Monsieur Henri Sonzo, des puissances titulaires qui leur ont donné l'indépendance. Je pense que pour moi, ce que l'Union africaine devrait être en mesure de faire, c'est se focaliser là où elle a la force, là où elle a la capacité. L'intégration économique serait pour moi l'un des domaines dans lesquels l'Union africaine pourrait vraiment se concentrer, car s'il y a une intégration économique, il y aura plus de commerce interafricain qui va générer de l'argent, qui va générer de l'emploi et qui pourra permettre à l'Union africaine de prélever son financement à partir de l'Afrique et non attendre que l'extérieur puisse financer et donc y financer, y avoir un pouvoir de décision ou d'influence.
D'accord. Alors, on va revenir sur cette question du financement en seconde partie. Henri Zouzi, comment l'UA peut-elle jouer un rôle plus actif dans la résolution de crises comme celle dans les Grands Lacs, dans l'Est de la RDC? Quelle doit être l'articulation entre l'UA et les organisations?
Alors, à l'exception de ce qui se passe au Soudan, où là, pour le coup, l'Union africaine est totalement absente, il faut quand même reconnaître que dans le dossier congolais, par exemple, l'Union africaine a mandaté le président angolais pour effectuer une médiation. On parle évidemment du processus de Luanda, avec notamment la fameuse feuille de route. Mais la tendance depuis plusieurs années maintenant est de sous-traiter ce type de questions aux organisations régionales ou sous-régionales. La CEDEAO, je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport aux problèmes au Mali, en Guinée, au Burkina, a pris des décisions fortes qui n'ont pas toujours été comprises par les opinions publiques, parce qu'on ne peut pas reprocher à la fois à l'Afrique dans ses institutions d'être faible, mais lorsqu'elle prend des mesures d'exclusion ou de sanctions, on la traite d'être à la solde de telle ou telle puissance. Je pense qu'il faut être un peu plus cohérent en la matière. Il y a des avancées à faire, bien évidemment, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de convergence et d'articulation entre différentes organisations régionales ou sous-régionales qui ont des dispositifs de maintien de la paix et qui entrent en jeu pour, par exemple, sécuriser, je prends l'exemple de la RDC, où vous savez, bientôt, il y aura le déploiement de la SADC, vous avez la force est-africaine régionale qui n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a ce type d'articulation qui mérite qu'il y ait davantage de débats, et puis surtout, ne donnons pas l'impression qu'il y a une Afrique qui joue contre une autre Afrique dans la résolution des conflits sur le continent.
Alors donc, c'est une bonne formule que l'Union africaine prenne un peu le retrait au profit d'organisations régionales.
Qu'elle prenne le retrait, qu'elle reste, j'allais dire la conscience collective, mais qu'elle puisse déléguer autant que faire se peut aux structures qui sont les mieux, en tout cas préparées à cet effet, le soin de prendre le soin de régler ce type de problème.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons un portrait Sabine Va, qui est à Bujumbura. Il nous dit que le rôle de l'Union africaine ne sera autre que de s'unir dans la lutte contre l'insécurité qu'on observe dans nos pays, au renforcement de la démocratie, à la liberté de la presse et des partis politiques. L'Afrique sera unie avec des élus qui s'engagent pour le bien-être du peuple. Lasgasek est à Dakar, il dit l'UA est une organisation panafricaine qui gagnerait à assurer son autonomie financière afin d'avoir les coudées franches dans ses interventions pour résoudre les conflits en Afrique. Quant à la CEDEAO, sa Cour de justice continue à donner des ordonnances jamais appliquées. Et puis il y a Omar Salin Kofi à Abidjan. Ce sont des organisations qui manquent d'autonomie financière et une efficacité qui laisse à désirer au vu des nombreuses crises qui persistent. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington, le forum qui revient après une courte pause. partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Dakar via Skype, Hawa Barak, elle est chargée du bureau Sénégal de l'OSIWA, l'Open Society for West Africa, et toujours sur Skype à Atlanta, Jean-Claude Zamba, analyste politique, et ici en studio avec moi à Washington, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique et producteur associé du Cité diplomatique. Alors Hawa, le panafricanisme tel qu'il est incarné aujourd'hui par certains leaders de la société civile et d'activistes, est-ce qu'il est en contradiction avec les idéaux des pères fondateurs ou reflète-t-il un rejet du globalisme à laquelle ces institutions comme l'Union africaine feraient partie d'après les critiques?
Moi, je pense que le panafricanisme, c'est la solidarité africaine, c'est l'enracinement et l'ouverture. Donc, le principe du panafricanisme, c'est partir de nos racines africaines, construire une masse critique d'Africains qui parle d'une seule et qui porte la voix de l'Afrique sur le monde, et une Afrique qui s'ouvre sur le monde. Ce que je constate et qui est malheureux, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une certaine désertion aujourd'hui dans le champ du panafricanisme. Nous avions des mouvements intellectuels très, très forts, des sociétés civiles africaines très, très forces qui étaient connectées, des syndicats africains, une solidarité dans les luttes africaines, pas seulement par exemple la lutte pour l'indépendance, mais même après post-indépendance, lorsqu'il y avait des questions qui touchaient le continent, nous avions une jonction plus forte. Aujourd'hui, ceux qui incarnent le panafricanisme, en fait, pour moi, à mon avis, ils trahissent les idéaux. Mais ce sont ces gens-là qui ont une certaine résonance, qui ont un langage populiste qui résonne avec les jeunes qui rêvent d'une Afrique décomplexée, mais pas d'une Afrique qui est fermée et qui exclut et qui discrimine.
Il n'y a pas forcément de contradiction, non?
Pardon?
Il n'y a pas forcément de contradiction entre le panafricanisme et l'ouverture, c'est un peu ce que...
Absolument.
D'accord. Alors, Jean-Claude Zamba, ce rejet ou cette remise en cause de ces institutions que l'on voit aujourd'hui chez beaucoup de jeunes Africains, est-ce justifié? Est-on très dur envers, disons, ces institutions?
Ben, je dirais que l'Union africaine a beaucoup de travail à faire. Les jeunes ne comprennent pas, en fait, certaines contradictions, comme on a vu au niveau de certains coups d'État, que ce soit militaire ou institutionnel. Il faudrait qu'à un moment, les jeunes puissent ressentir que l'Union africaine est là pour eux, ils travaillent pour eux, et puis vraiment le suivre, je dirais pas au quotidien, mais vraiment sentir leur présence. Je pense que quand on a créé l'OUA, beaucoup de peuples, en fait, ne se sentaient pas connectés à leur gouvernement, et les gouvernements se sont mis à faire un travail qui était juste à rester au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la massive migration de jeunes qui veulent aller vers l'Europe, on n'a pas beaucoup entendu l'Union africaine vraiment mettre en place des dispositifs pour revenir ce genre de migration. Ce qu'on a vu dernièrement et qui est quelque part intéressant à voir, ce sont les condamnations les réponses que le secrétariat de l'Union africaine a eu à faire par rapport à des choses que, par exemple, l'Union européenne a eu à dire sur l'Afrique, qui est juste là, par exemple, quand on a vu la tournée du ministre des Affaires étrangères russe en disant que l'Afrique est juste là pour le tourisme. Là, c'est ce qu'on attend, voir vraiment que l'Union africaine est présente, mais qu'elle soit aussi pratique et pragmatique, parce que les jeunes qui n'ont pas de boulot, qui ne voient pas d'avenir, ne se sentent pas quelque part, ne s'identifie pas à cette Union africaine et aussi ne s'identifie pas au gouvernement dans leur pays d'origine.
Alors, on va revenir sur cette question de la réconciliation entre l'Union africaine et sa jeunesse, mais j'aimerais avoir votre point de vue justement sur cette question du financement que nos téléspectateurs ont évoqué dans les commentaires Facebook, quand on parle de 60% qui vient de l'extérieur. Comment est-ce que vous voyez?
Alors, quelques chiffres, si vous le permettez. Donc, l'an dernier, à Lusaka, le budget 2023 de l'Union africaine a été adopté. Il s'élève à 655 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que 67% de ce montant est financé par les États membres. Problème, c'est que plus de 40% des États membres ne contribuent pas. Vous comprenez donc qu'il y a un vrai problème. Et je pense que pour revenir sur la question du panafricanisme, le vrai panafricanisme, c'est d'être à jour de ces cotisations. On ne peut pas effectivement se lancer dans des diatribes contre l'Occident lorsque en interne sur le continent africain, dans les institutions qui ont été mises en place pour essayer de donner, je l'ai dit tout à l'heure, de la crédibilité, de la cohérence, de la vision stratégique, on est incapable de cotiser et de contribuer à part égale. C'est un premier problème. Donc, si vous voulez vous faire respecter, commencez par vous faire respecter d'abord entre vous, entre Africains. La deuxième chose, c'est que, effectivement, vous ne pouvez pas être en capacité d'agir si vos marges de manœuvre sont limitées à ce niveau. Il faudrait, par exemple, que tous les pays africains puissent consacrer, c'est un exemple que je donne, hein, 0,05% de leur budget qui serait affecté automatiquement à la contribution de l'Union africaine. Voilà une petite piste qui peut être envisagée alors, pour que l'on puisse arrêter de parler en l'air et surtout sortir de cette hypocrisie.
Alors, c'est un dernier tour de table et je vais rester avec vous. Comment l'Union africaine peut-elle se réconcilier avec cette partie de la jeunesse qui est très critique à son nom?
Vous savez, à l'époque du plan d'action de Lagos qui avait été initié par Eden Kodjo au début des années 80, il y avait une stratégie pour précisément faire en sorte que les jeunes soient informés par des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation. Malheureusement, cette idée a été progressivement abandonnée parce que de nouveaux enjeux et de nouveaux défis sont arrivés. Et à ce niveau-là, les pays n'ont pas tous évolué, je dirais, au même rythme. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est accorder un peu plus de crédit aux revendications des jeunes en leur donnant davantage accès, notamment à une meilleure connaissance des institutions africaines, mais surtout au niveau des États, qu'il y ait effectivement de véritables stratégies en faveur de cette jeunesse.
D'accord. Alors, Awa, même question. L'Union africaine et sa jeunesse, les institutions régionales et la jeunesse africaine, comment peut-on se retrouver?
Bon, je pense que cette jeunesse-là n'a pas pas fait le livre de tourner le dos à l'Union africaine. Quand on parle de l'Union africaine d'époque, il faut s'approprier de cette Union africaine-là. Et il faut essayer de changer cette Union africaine-là de l'extérieur ou de l'intérieur. Et justement, ce que disait Henri, c'est comment reconnecter et comment créer des canaux et des ponts entre cette jeunesse et cette Union africaine-là. Cette jeunesse-là, on parle dit que c'est l'avenir de... Elle n'est pas l'avenir de... Elle est le présent de l'Afrique. Et si on veut une Afrique forte, si on veut une destination forte, si on veut une voix de l'Afrique qui porte sur le monde, c'est avec cette jeunesse-là qu'elle va se faire. Mais maintenant, il faut des programmes dans ces pays-là, dans nos différents pays, dans nos organisations, pour connecter cette jeunesse-là avec l'Union africaine, avec ses institutions, et pour que cette jeunesse-là pèse sur le poids, sur les décisions que prennent ces institutions-là et sur les processus que ces institutions-là mettent en place.
D'accord. Jean-Claude, à vous aussi, comment est-ce que vous voyez un peu les relations entre cette jeunesse critique et l'Union africaine?
Ben, je pense que pour moi, ce qui serait important, c'est que chacun commence à s'écouter. L'Union africaine commence aussi à écouter et avoir des processus de discuter avec sa jeunesse. On devrait être en mesure de mettre dans les curriculums au niveau des lycées vraiment l'apprentissage du début de l'Union africaine, comprendre cette vision, parce que si les jeunes ne comprennent pas cette vision, ils ne pourront pas eux-mêmes à un moment l'appliquer. Et également la place de la diaspora. La diaspora doit être encore plus impliquée. On a eu en décembre la réunion avec M. Biden aux États-Unis qui a dit qu'il est prêt à travailler avec cette diaspora. On voudrait voir quelque part une Union africaine qui tend la main, qui met en place des processus pragmatiques pour travailler avec cette diaspora, travailler avec les jeunes et vraiment les emmener ensemble pour pouvoir faire une Afrique forte. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est possible. Il faut juste que nous mettions en place, nous sommes assez intelligents pour cela et nous sommes assez pragmatiques également pour cela. Nous avons assez de personnes éduquées qui ont beaucoup d'expérience pour cela. Il faut juste que l'Union africaine se révèle de cette léthargie dans laquelle elle s'est mise à travers tous ces conflits ou à travers le manque de financement, comme disait M. Nissou. Il est important que le panafricanisme commence par le paiement de ces cotisations.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à ce panel très intéressant, fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. À très bientôt. Merci également à toute l'équipe technique. Bye bye.